Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mica.
Bonjour Anne-Rose et encore bonne année.
Oui, meilleurs voeux à vous également, pour vous, pour tout le diocèse de Tarbes et Lourdes. Un diocèse qui a été réuni ce dimanche 5 janvier en la solennité de l'Épiphanie, puisque vous nous avez fait rentrer, vous avez fait rentrer le diocèse de Tarbes et Lourdes dans cette année jubilaire. C'était une célébration absolument magnifique, pleine de ferveur. J'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu. D'abord, comment vous l'avez vécu avec ces reliques des saints qui sont entrées en procession dans la cathédrale Notre-Dame de la Cède?
Bien, ça c'était un élément de la liturgie en effet, mais d'abord sur le fond plus large, plus général, j'ai été très très touché de la participation des diocésains à cette messe qui m'a étonné. Je m'attendais vraiment pas, je m'attendais à ce qui est finalement pas tant de monde que ça, parce que c'est un dimanche, en fin d'après-midi, fin des vacances scolaires, les gens sont allés à la messe le matin, dans leur paroisse. Bon, donc je m'attendais à ce que ce soit digne et convenable, mais jamais j'ai vu, depuis que je suis là, la cathédrale aussi pleine que dimanche soir. Avec une très 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 forte participation des gens du diocèse, de partout. Et alors ça m'a profondément touché. D'abord, beaucoup de jeunes, beaucoup de prêtres, beaucoup de consacrés, beaucoup de fidèles des paroisses. Enfin, c'était vraiment, vraiment ça, pour moi, le plus beau.
Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, que les gens ont vraiment envie de vivre cette année de l'espérance?
Ça peut vouloir dire aussi qu'on a bien communiqué sur l'invitation entrer dans l'année jubilaire par ces deux célébrations dans le diocèse. C'est un peu une originalité de notre diocèse, parce que partout ailleurs, il y a eu une entrée. Dans beaucoup de diocèses, c'était d'ailleurs ce même dimanche. Dans l'année jubilaire, nous, il y en a eu une la nuit du 31 décembre, 1er janvier, à la grotte de Lourdes, pour le sanctuaire de Lourdes, sanctuaire à dimension internationale. Et puis, donc, cette entrée-là pour le diocèse. Je pense que le thème, en effet, de cette année jubilaire touche les gens. Pèlerin de l'espérance, ça nous parle dans le contexte, du monde, de l'Église. Et on a envie, il me semble, d'entrer dans cette espérance, en effet, et d'être vraiment pèlerin d'espérance. Voilà. Donc ça peut être un élément d'explication. Je pense aussi que, le travail de fond qui est fait dans le diocèse pour que toujours plus et toujours mieux, on acquiert un esprit de famille diocésaine et qu'on se sente concerné non seulement par ce qui se passe dans notre secteur ou notre paroisse ou le domaine dont on est proche, mais réellement enraciné là où on est, mais avec une dimension diocésaine dans le cœur. Je crois que ça fait son petit bonhomme de chemin aussi, et que c'est quelque chose de cette âme diocésaine est en chemin et grandit, et ça peut être aussi un élément d'explication. Et puis en effet, la liturgie était absolument magnifique, il y a eu beaucoup d'émotions, et ça on le doit au cérémoniaire, l'abbé Benjamin Martin, qui a eu cette formidable idée de demander aux paroisses qui disposaient des reliques des saints de notre diocèse, de les mettre à disposition, et dans une très très belle première demi-heure, depuis les saints fondateurs du diocèse jusqu'à Sainte Bernadette, accueillis solennellement, de retour dans la cathédrale de Tarbes. C'était un événement qui a touché énormément de gens. Au terme de cette demi-heure où les reliques des saints sont entrées solennellement, portées par les chevaliers du Saint-Sépulcre, avec une petite formule « entre Cernin, entre Justin, entre… » etc. Et puis « entre Bernadette », à la fin, c'était particulièrement émouvant, en effet. Puis voilà, le reste de la célébration, le chœur diocésain était là, magnifique, au grand complet. Et puis un climat à la fois sobre, beau, solennel, paisible, profond, priant. Et je trouve que on est entré très dignement et très en profondeur dans cette année jubilaire.
Pendant la messe, notamment au cours de votre homélie, vous avez insisté sur l'universalité de l'Église, puisque c'était la fête de l'Épiphanie. Vous avez fait le lien entre cette fête de l'Épiphanie et l'universalité de l'Église. C'est pas toujours facile de concevoir, d'appréhender, d'aimer cette universalité de l'Église, alors que parfois même, au sein même d'un diocèse ou même encore à l'échelle de nos paroisses, l'unité, la communion, c'est parfois un défi, un enjeu. Et pourtant, eh bien, il est question quand même d'universalité. Alors comment aimer et appréhender cette universalité?
Si l'Église n'était pas universelle, elle serait une secte. Et donc ça fait partie de sa définition et de son essence que d'être profondément universelle. Le Concile Vatican II enseigne que l'Église, elle est le laboratoire de ce qui se prépare, et ce qui se prépare, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, par définition, eh bien, il sera particulièrement universel. Et donc l'Église est la préparation de ce royaume des cieux, c'est-à-dire la réalisation déjà là, dans le temps de l'histoire, d'une fraternité universelle et de l'union de cette fraternité universelle en Dieu déjà. Donc c'est vrai pour l'Église universelle, pour l'Église catholique, d'ailleurs le mot catholique veut dire ça, hein, universel, dans sa définition même, et c'est vrai donc de chacune de nos communautés, en particulier de la communauté d'un diocèse. Donc soit on consent à cette dimension, soit on n'est pas tout simplement, on est tout simplement pas chrétien. Voilà.
Donc on rejoint l'importance d'être liés les uns aux autres et de pas avancer seul dans son
coin. Depuis la Pentecôte, c'est comme ça.
Eh oui.
C'est les apôtres constatent que l'Esprit Saint est donné à leur insu à des gens qui ne sont pas de la communauté d'Israël. Et donc, ils décident, puisque Dieu nous manifeste qu'il donne sa grâce et son esprit à d'autres qu'à nous, on va suivre. Et c'est la Pentecôte. Et l'Église est née de la Pentecôte. Et donc, soit elle est Pentecôte actualisée, soit elle n'est plus l'Église du Christ.
Au cours de cette messe, donc nous sommes tous rentrés dans le jubilé de l'espérance. Alors, qui dit jubilé dit un certain nombre d'ingrédients, de points incontournables, et il est question notamment d'indulgence. Alors, je voudrais qu'on prenne le temps d'en parler, puisque dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes, on peut recevoir durant cette année jubilaire l'indulgence plénière dans deux endroits, au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et puis précisément à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Est-ce que vous pouvez d'abord nous redire qu'est-ce que c'est l'indulgence plénière et au fond à quoi ça sert, de quoi ça nous sauve?
Alors, on parle d'une réalité spirituelle avec un vocabulaire qui est particulièrement difficile à manier et qui peut même donner des boutons à certains, notamment dans le dialogue œcuménique, puisque au moment de la réforme de Luther, précisément, il était question d'indulgence, il était question de l'indulgence,
oui.
et des trafics financiers autour de cette indulgence qui était pratiquée, semble-t-il, ici ou là, et que Luther dénonçait. Bon. Et il y a des restes un peu dans notre mentalité, dans notre mémoire collective à propos de ça, qui ne rendent pas facile l'appréhension de cette belle réalité spirituelle pourtant, qui est liée à la doctrine chrétienne, à ce que les chrétiens croient à propos du péché, de la rémission des péchés, de la grâce, du pardon des péchés, et aussi les conséquences du péché, et entre autres, parmi les conséquences, il y a un prix à payer, il y a une réparation nécessaire, et l'indulgence a quelque chose à voir avec le prix à payer en quelque sorte, enfin comme conséquence de l'acte qui a été posé.
C'est-à-dire notre péché
qu'on appelle
a une conséquence.
Péché, voilà. Et donc l'indulgence, c'est quand on va recevoir le sacrement de pardon, on reçoit le pardon pour le péché qui a été commis, mais on doit assumer les conséquences de... l'indulgence, c'est que ça a à voir avec les conséquences au ciel de ce péché qui a été commis, et donc c'est une sorte de dispense de ces conséquences au ciel, dans le temps après la mort et dans le temps... Voilà. Donc... déterminer des lieux et des gestes à poser pour pouvoir, dans le cadre d'une année jubilaire, bénéficier de l'indulgence plénière, ça veut dire que l'ardoise est effacée à 100%. Non seulement le péché est pardonné dans la grâce du sacrement du pardon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais en plus, ce qui reste sur l'ardoise, au ciel, est totalement effacé, dans le cadre de l'indulgence plénière qui est reçue, moyennant de mettre en œuvre ce qui est proposé, c'est-à-dire faire un pèlerinage dans un lieu où l'indulgence est accordée par décret de l'Église. Donc, en effet, dans le diocèse, j'ai décidé qu'on pouvait recevoir l'indulgence plénière à Lourdes et à la cathédrale. À la cathédrale, dans les prochains jours, sera ouvert un chemin de l'année jubilaire qui fera passer par porte d'entrée, par le baptistère, par ceci, par cela, enfin...
Alors, il n'y a pas proposant. De porte sainte.
Il n'y a pas de porte sainte. Il n'y en a qu'une seule qui a été ouverte à Rome, et le Saint-Siège a beaucoup insisté pour dire qu'il n'y a pas d'autres portes saintes ouvertes
mais
ailleurs
dans le monde. Mais ça n'empêche d'avoir une démarche jubilaire.
Mais
quand
on fait une démarche jubilaire, en formulant des prières, en se confessant, etc., etc. Et en même temps qu'on reçoit le sacrement du pardon, moyennant d'avoir fait le reste, qui est indiqué dans le document que j'ai proposé aussi, de repères pour cela, eh bien, en même temps qu'on reçoit le sacrement du pardon pour ses péchés, on reçoit aussi l'indulgence plénière pour le reste.
Alors, comment ça va se passer? Vous invitez donc les chrétiens des Hautes-Pyrénées à se rendre à la cathédrale ou au sanctuaire de Lourdes pour profiter pleinement de cette grâce de l'indulgence plénière, ou les paroisses vont venir
Chacun après fait comme il veut. On peut individuellement faire les démarches soit au sanctuaire à Lourdes, soit à la cathédrale, à Tarbes. On peut les faire seul, on peut les faire... De toute façon, c'est accordé seul, on n'accorde pas l'indulgence ou le pardon à un groupe. Donc même si une paroisse
c'est
vient,
c'est
une démarche personnelle qui est à vivre.
Voilà, alors vous évidemment. Disiez que c'est un bien spirituel, donc il n'y a pas de document comme on peut voir
on ne va pas réveiller de vieilles querelles.
Voilà.
C'est un bien spirituel, invisible et réel, comme l'est le pardon des péchés.
Voilà, et toutes les indications sur cette indulgence, eh bien...
Et donc, gratuit, j'insiste.
Voilà, gratuit, c'est important de le dire, et tout ça, c'est indiqué dans le dernier bulletin de diocèse.
Mais c'est une belle réalité spirituelle, cela dit, c'est vraiment une belle réalité spirituelle, même si le terme qui la désigne est un peu vieillot, et puis fait appel à de mauvais souvenirs. Il n'empêche que c'est une belle réalité spirituelle, et j'invite vraiment chacun à faire la démarche pendant cette année jubilaire pour goûter à cette grâce et à la joie qui va avec.
Voilà, et bien le message est passé. On va parler d'un tout autre sujet, Mgr Mika, d'un autre évêque. Mgr Ray a remis ce 7 janvier sa charge pastorale, lui qui était évêque du Var depuis 25 ans. Dans son communiqué, il précise qu'il démissionne par obéissance au successeur de Saint-Pierre. Alors on ne va pas commenter cette histoire en particulier, ni l'épiscopat de Mgr Ray, puisque de toute façon les autres médias le font massivement, à tort ou à raison d'ailleurs. Ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui, c'est de parler finalement de l'obéissance dans l'Église et le respect de la hiérarchie. Finalement, que vaut la parole du pape? Peut-on la contester? Et pourquoi, si on croit qu'il est le successeur de Saint-Pierre, ouvre-t-on si facilement la porte aux commentaires, parfois aux critiques à l'égard du pape?
C'est une très très bonne question, en effet, et là c'est quelque chose qui est admiré par nos frères protestants. Ils l'ont exprimé fortement au moment du Concile Vatican II en particulier, où ils étaient invités comme observateurs. Et donc, ils ont fait leur travail d'observation, et ils regardaient comment fonctionnaient les évêques catholiques et, parmi eux, le Saint-Père. Observant que le pape était là, qu'il y avait une très très grande liberté de parole des évêques, et qu'à un moment donné, si ça part trop dans une direction, ou si ça part trop, il y a un arbitre qui dit « Attendez, là, non, là, ça va pas.
Ouais. »
Et moyennant cette sécurité de savoir qu'il y a un arbitre qui veille, il y avait une très très grande liberté, en conséquence, dans les échanges. Et eux disaient « Chez nous, c'est pas comme ça. On a tellement peur de se tromper que du coup, notre parole est un peu paralysée. » Parce que quelqu'un dit quelque chose qui va trop à contre-courant, comme il n'y a pas de magistère qui dit « C'est vrai, c'est faux », qui dit « Ça va trop ceci » ou « Ça ne va pas assez cela »,
c'est finalement bloquant.
Et bien du coup, soit on se tait par peur de dissension, soit on crée une autre église à côté. Avec ceux qui seront d'accord avec ce point de vue-là. Et ça divise encore plus. Alors que finalement, étonnamment, le service de l'autorité, et donc ensuite de l'obéissance qui va derrière, enfin, etc., est étonnamment, et ça fonctionne, nous disent les observateurs protestants, c'est quand même intéressant de le souligner, est au service d'une très grande liberté de parole et finalement de l'unité du corps.
Donc ça évite un entre-soi, en quelque sorte.
Ça évite la tour de Babel, ça évite des interprétations totalement affectives et puis finalement des conflits simplement d'opinion. Il y a dans le geste du Christ qui appelle les douze et qui parmi les douze choisit Pierre, il y a quelque chose, une structuration qui est vécue ensuite dans l'Église et la succession apostolique, qui assure un parmi les 12 d'être, de l'assister de l'Esprit Saint et de sa propre présence pour qu'il puisse servir la foi de ses frères et dire ça c'est vraiment ce qu'on a reçu du Christ et ça, ça ne l'est pas. Et l'Église, tout au long de son histoire, a organisé des conciles. Alors c'est l'ensemble des évêques, mais au final c'est le successeur de Pierre qui atteste que c'est bien comme il convient, qui façonne la foi et la juste interprétation du trésor légué aux apôtres par le Christ. Nous allons, dans le cadre de cette année jubilaire, fêter le 1700e anniversaire du concile de Nicée, qui, pour la première fois, a réuni l'ensemble des évêques du monde de l'époque, ils étaient plus de 300, je crois, et qui a élaboré le symbole de la foi, c'est-à-dire le texte qui synthétise le contenu de la foi commune de l'ensemble des églises chrétiennes. C'est le credo de Nicée. Et puis en Constantinople, quelques années plus tard, a rajouté quelques formules à propos de l'Esprit-Saint. Mais voilà, c'est le rôle de l'Église que d'avoir suffisamment d'autorité attestée et confirmée par le Seigneur lui-même pour dire ben, « ça, c'est vraiment ce que le Christ a donné aux apôtres voilà. ».
Donc, avec ce
donc sur le principe, il faut qu'il y ait un tel service dans l'Église. Et c'est le rôle du pape que de l'exercer avec la collégialité des évêques, etc., etc. Ça veut dire que on a le droit, et les théologiens ne s'en privent pas, de faire de la recherche avec beaucoup de liberté, d'oser des pistes jamais explorées pour interpréter ceci, pour reformuler cela. C'est une grande tradition, déjà dans la foi d'Israël, l'exégèse rabbinique joue beaucoup sur des formules, sur des interprétations, sur des hypothèses, etc., etc. Mais à un moment donné, il y a une autorité qui atteste que ça, c'est fidèle à l'enseignement du Christ, ou ça, ça ne l'est pas, mais continuons la recherche quand même. Et c'est très rassurant de savoir qu'il y a ce service-là. Mais une fois que l'autorité s'est prononcée sur un dogme ou quoi, s'il est défini comme étant du donné de la foi, eh bien, on doit le croire. Et s'écarter de cette foi-là, c'est ne plus être membre du corps, finalement. C'est pas simplement une juxtaposition d'opinions et chacun a le droit d'avoir la sienne. On a le droit d'avoir ses opinions, mais il y a une foi chrétienne. Il n'y en a pas 50.
Alors, cela, on le comprend bien s'il s'agit d'une réflexion ou d'un travail, d'un cheminement quand il s'agit de dogmes ou de choses qui scellent vraiment la foi de l'Église catholique. Mais ça veut dire aussi que, quelles que soient les décisions que le pape prend, eh bien, parce que c'est le de Saint-Pierre, on croit que c'est bon. Et on ne critique pas.
Alors non, parce que tout au long de son histoire, l'Église, elle a hiérarchisé la valeur d'autorité des interventions du pape, d'un évêque, d'un prêtre, de n'importe qui. Bon. Il y a les textes pontificaux ou la prise de parole du pape a des degrés d'autorité extrêmement différents. Une interview donnée dans un avion au retour d'une visite pastorale quelque part, ou pontificale quelque part, n'a pas la même valeur qu'une encyclique, n'a pas la même valeur que l'engagement du pape sur un donné de foi, n'a pas la même valeur qu'un décret disciplinaire qui est valable jusqu'à ce qu'un autre décret disciplinaire vienne annuler le précédent. Il y a une hiérarchie des interventions, y compris du pape. Et donc, qui oblige différemment la réception de ces interventions. Donc, sur le principe, il faut, dans la foi, accueillir le ministère du pape comme étant voulu par le Christ et au service de l'orthodoxie de la foi et de l'unité de l'Église. Donc, ça fait partie de notre foi que de croire ça, déjà, bon, comme point de départ. Mais ensuite, il faut avoir suffisamment de maturité à la fois affective, spirituelle et intellectuelle aussi, sans doute, pour situer l'intervention du pape et voir son niveau d'autorité et donc le niveau d'obligation d'obéissance que ça engage de ma part. Par exemple, le mandement de Mgr Laurence à propos des apparitions de Lourdes. Il atteste que c'est vraiment la Vierge Marie qui est apparue à Lourdes 18 fois, du 11 février au 16 juillet 1858. Très bien. Mais ce n'est pas un dogme de foi. C'est-à-dire qu'on peut rester dans l'Église catholique sans adhérer, par la foi, au fait que c'est vraiment la Vierge Marie qui est apparue à Lourdes à Bernadette. Vous voyez ? Or, pourtant, il y a l'autorité de l'Église qui est engagée dans la reconnaissance officielle des apparitions. Mmh.
Mais on n'est pas obligé
d'y
croire.
Il n'y a pas un niveau d'obligation qui est du même ordre que un élément du credo, par exemple.
Voilà. Merci pour cet éclairage, Monseigneur Jean-Marc Mika. On arrive à la fin de cet entretien. Alors, ce week-end, eh bien, c'est un week-end chargé puisque vous reprenez les visites pastorales. Vous serez ce samedi 11 janvier dans l'ensemble paroissial d'Aspin. Ce sont les vallées de Batte-sur-Guère et de Castelloubon. C'est pas très loin de Lourdes. Donc, une journée de visite pastorale. Et puis, dimanche, vous serez du côté de Pierrefitte-Nestalas pour une messe de bénédiction de l'année. Voilà, mais ça, c'est une bonne idée de la communauté paroissiale de vous faire venir pour bien démarrer l'année.
Oui, oui, c'est la troisième fois pour cette communauté.
Merci beaucoup, Monseigneur. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir. Très, très bonne semaine à tous.